L'actu des Grands Causses.
L'émission du Parc naturel régional. Frédérique Nègre est directrice du Parc national régional des Grands Causses depuis fin 2005. À ce titre, elle travaille avec l'équipe technique et avec l'équipe politique du comité syndical du parc. Avec elle, nous abordons la question du fonctionnement du parc et de ses missions. Dans un premier temps, Frédérique Nègre nous rappelle ce qu'est un parc naturel régional.
Un parc naturel régional, parce que vous savez qu'il y a des parcs naturels nationaux. Donc nous, on est un parc régional. C'est un territoire généralement de qualité. Quand je dis de qualité, c'est qualité du paysage, de la biodiversité, qualité générale, et qui est proposé par une région à un classement qui lui est accordé par l'État. Donc, en fait, c'est un territoire avant tout, et s'il arrive à être classé par l'État en parc régional, à ce moment-là, il se dote d'une structure, de gestion, qui est un syndicat mixte.
Alors, concernant le parc naturel régional des Grands Causses, quand a-t-il été créé et sur quel territoire s'étend-il ?
Donc, le parc des Grands Causses a été créé en 1995, après 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement, de ce qu'on appelle une phase de préfiguration, mais le classement en tant que tel a été accordé en 1995. Et il s'étend donc sur 327 000 hectares et, pour être plus concrète, sur 97 communes du sud du département de l'Aveyron.
Il regroupe combien d'habitants ?
Un tout petit peu plus que 68 000 habitants au jour d'aujourd'hui.
Frédérique Nègre, le parc fonctionne avec une charte.
Oui. Hein ?
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette charte, son contenu et son rôle ?
Les parcs, quand ils demandent à être classés, ils le font sur une espèce d'argumentaire, si je puis dire, qui est cette fameuse charte. Et cette charte, c'est un document qui projette les activités de ce territoire à 12 ans. Donc il y a eu une première charte qui a porté le parc jusqu'en 2007. Et puis il y en a une seconde qui nous porte jusqu'en 2019. En fait, c'est un document qui donne une feuille de route, non seulement au syndicat mixte du parc et à son équipe, mais à l'ensemble des acteurs socio-économiques du territoire qui ont été consultés pour l'élaborer et qui se sont engagés à le mettre en œuvre dans leurs propres activités à eux.
Quels sont les grands principes qui guident les actions du parc ?
Alors, les grands principes qui guident les actions du parc sont les mêmes que pour tous les parcs. Les parcs ont, 5 grandes missions qui sont définies par la loi. La première est, très importante, c'est la protection et la gestion des patrimoines. Quand on parle de patrimoine, on parle des patrimoines naturels et des patrimoines culturels. La deuxième mission, c'est participer à l'aménagement du territoire. La troisième, c'est de participer au développement de l'économie. La quatrième, c'est tout ce qui tourne autour de l'information, l'éducation à ce fameux territoire et à ses qualités. Et la dernière, qui est très mise en avant en ce moment, c'est que les parcs sont censés innover et expérimenter des nouvelles voies de développement.
Vous pouvez nous donner des exemples ?
Je crois qu'on a, en portefeuille en ce moment environ plus de 50 actions qui se déroulent en même temps. Donc, pour chacune des 5, je vais essayer de vous développer un exemple. Par exemple, sur la première mission, qui est de la protection et la gestion des patrimoines, le parc, dès le début, à la demande des élus du territoire, des communes en particulier, a mis en place une gestion à la fois des qualités et de la quantité de l'eau, de la ressource en eau du territoire. Et donc, dans ce domaine-là, ils mènent des actions très concrètes qui sont, par exemple, l'installation de stations de mesure pour savoir comment évolue la qualité et la quantité de cette eau. Ces mesures sont retransmises ensuite dans des bases de données nationales. Ils conduisent aussi un service que lui ont transféré les communes et qui est l'assainissement non collectif. c'est-à-dire qu'on a 3 personnes dans l'équipe qui vont chez les particuliers les aider à mettre en place des dispositifs d'assainissement individuels quand ils ne peuvent pas se raccorder à l'assainissement collectif. Donc toute la journée, ils vont sur les projets de construction d'habitation donner des conseils et surveiller que les dispositifs d'assainissement se mettent en place correctement. Toujours sur cette question, et peut-être un peu moins concret, je dirais un peu moins quotidien, le parc mène des grandes études d'acquisition de connaissances sur les nappes souterraines à travers des études qui s'étalent sur plusieurs années, qui se conduisent en lien avec le milieu universitaire. Voilà, pour vous donner un exemple sur le patrimoine.
L'actu du parc des Grands Causses.
Sur l'aménagement du territoire, on est au quotidien à côté des communes lorsqu'elles doivent créer ou réviser ce qu'on appelle leur document d'urbanisme. Et là, le parc a un architecte urbaniste et un paysagiste qui apportent des conseils, apportent de l'information aux maires qui se lancent dans le renouvellement de leur document d'urbanisme, entre autres. Et puis, il y a la question du SCOT, du schéma de cohérence territoriale du Sud Aveyron, pour lequel le parc est quasiment en capacité aujourd'hui de prendre le pilotage de sa fabrication. Sur les questions liées au développement de l'économie, on est positionné avec la Chambre d'agriculture, depuis 2 ans maintenant, sur le développement des circuits courts de production agricole du territoire. Circuit court, c'est-à-dire qu'on essaye de favoriser la vente soit directe à l'exploitation, soit avec au maximum un intermédiaire. Donc on est main dans la main avec la Chambre d'agriculture auprès des agriculteurs qui produisent soit de la viande, soit des légumes, pour essayer de les accompagner dans le développement de ces circuits de vente dits courts. Sur l'éducation, l'information et l'accueil, on a développé sur le territoire un maillage de lieux d'accueil, de petites maisons à thème. Il y en a une dizaine, je crois, aujourd'hui. Et on vient de refaire un travail récemment pour mieux communiquer à travers elles sur le parc auprès des touristes, mais aussi pour qu'elles puissent mieux communiquer sur leurs activités et fassent découvrir le territoire environnant. Alors il y en a par exemple une à Poy sur la question de la frise, il y en a une à Buzins sur les dolmens, il y en a une à Saint-Cernin sur l'enfant sauvage. Voilà, on a comme ça un réseau de lieux d'accueil qui sont un peu ambassadeurs du parc. Et concernant l'expérimentation et l'innovation, un exemple aussi, un travail que nous menons depuis 2 ans avec la faculté de sciences économiques de Montpellier et un consultant économiste et qui nous permettra à terme, lorsque le parc sera sollicité pour donner son avis sur les projets d'aménagement qui se déroulent sur son territoire, de faire prendre en compte la valeur des aspects naturels, de la biodiversité, de la qualité des milieux sur lesquels ces projets vont se développer. Il n'y aura plus simplement, pour donner des avis et sous-peser hein, la pertinence des projets d'aménagement, le critère économique qui viendra en compte. On met en place un outil tout à fait concret qui nous permettra de donner une idée aux élus de la valeur des territoires sur lesquels ces projets vont s'implanter. Voilà rapidement brossé, hein, un exemple par mission.
L'actu du parc des Grands Causses.
Qui peut faire appel au parc et pourquoi ?
Alors, le client principal du parc, ce sont les communes. Les communes, les intercommunalités, les communautés de communes, donc les élus locaux. Ce sont eux qui contribuent au fonctionnement du parc par une contribution chaque année. Et donc, nous avons pour obligation, je dirais, de répondre à leurs demandes de conseils, d'informations, d'accompagnement, de montage de projets, de recherche de financement, etc. Ensuite, évidemment, le parc travaille pour ses habitants, puisque à travers ses multiples actions, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de, un, préserver la grande qualité de ce territoire sur lequel ses habitants vivent, et deuxièmement, le développer et lutter contre la désertification, la déprise agricole, etc. Donc, un, les élus locaux, et je dirais un bis, les habitants de ce territoire. Après, évidemment, le parc est au service des touristes et des visiteurs qui s'adressent à nous souvent pour avoir des outils de découverte, je dirais, qui sortent un peu des sentiers battus, de la découverte d'un tourisme peut-être plus classique, parce que le parc développe des produits touristiques, écotouristiques, de découverte du territoire par des professionnels du tourisme qu'on accompagne. Voilà.
Frédéric Nègre, est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ?
Je voudrais juste ajouter peut-être en conclusion que, bien évidemment, je considère que avoir un parc naturel régional sur son territoire, c'est une chance pour l'avenir, que j'espère que l'ensemble des habitants et des élus de ce territoire en ont bien conscience, et que c'est un choix politique qui a été fait il y a 17 ans maintenant, et que je trouve courageux, et que j'espère qu'on arrivera à faire perdurer dans le temps.
L'actu du Parc des Grands Causses, une émission réalisée par Radio Larzac et Radio Saint-Afrique. Retrouvez l'actu du Parc des Grands Causses tous les samedis dans le Midi Libre.